Il est 20h30 à Paris, 1h de moins à Yaoundé, 19h30, temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale.
Afrique Soir, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'information africaine. Au Cameroun, le gouvernement communique enfin sur les rumeurs concernant l'état de santé du président Paul Biya. 92 ans, dont l'absence prolongée de l'espace public interroge. À retenir aussi l'ouverture du procès de Charles Onana devant le tribunal correctionnel de Paris. L'auteur franco-camerounais est jugé pour contestation de l'existence d'un crime de génocide. On parlera également de l'avenir de plus en plus incertain des sociétés minières étrangères au Burkina Faso. Le pays envisage de revoir les contrats des compagnies minières aurifères étrangères. Et puis le dossier de cette édition consacré à l'état de la filière coton en Afrique. On parlera des forces et des faiblesses du secteur de l'or blanc sur le continent avec le négociant en coton Armand Ezer. Enfin, comme tous les mardis, la chronique d'Hervé Mandina alias DJ Facemaker pour un voyage en musique qui nous conduira au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et puis en Ouganda. Et ce communiqué officiel du gouvernement camerounais sur l'état de santé du président Paul Biya. Le chef de l'État camerounais, toujours à Genève, en Suisse, ne s'est pas rendu à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies fin septembre où il était annoncé. Il n'était également pas présent au sommet de la francophonie les 4 et 5 octobre à Paris, pas plus qu'à Hambourg, en Allemagne, en ce début de semaine. Polycarpe Samba, vous êtes en direct à Yaoundé, où la santé de cet homme de près de 92 ans qui dirige le Cameroun depuis 42 ans est source de conjecture et de préoccupation ces derniers jours.
Ce qui a fait réagir le gouvernement, c'est une vidéo diffusée en ligne par une chaîne de télévision privée ce mardi. ABS pour Africa Broadcasting Service est basé à Houston, au Texas, aux États-Unis. Son présentateur vedette Chris Tano est un leader séparatiste anglophone en exil. ABS affirmait tout ce matin que le président Paul Biya était mort, déclarant avoir des informations provenant du Cameroun, de Suisse et de France. Dans un communiqué publié en fin d'après-midi, René Sadi, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, a dénoncé des rumeurs qui relèvent du fantasme et de la pure imagination, rumeurs auxquelles il dit apporter un démenti formel. Le chef de l'État renseigne René Sadi s'est accordé un court séjour privé en Europe, mais il reste attentif où qu'il se trouve à l'évolution de la vie nationale, poursuit le ministre de la Communication. Avant ce communiqué, deux autres ministres, membres du comité central du RDPC, parti majoritaire, ont aussi dénoncé ces rumeurs. Pour Jacques Famdongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, ce sont des allégations dénuées de tout fondement. Le ministre du Travail, Grégoire Rona, a quant à lui déclaré cet après-midi que ceux qui tentent de tromper l'opinion en annonçant le décès du chef de l'État camerounais doivent payer le prix fort. Les institutions appropriées doivent sévir face à ces imposteurs. Plus d'un mois après le départ du président Paul Biya du Cameroun pour le sommet Chine-Afrique, accompagné de son épouse Chantal Biya, aucune date de retour à Yaoundé. N'est annoncé.
Merci Polycarpe Samba en direct de Yaoundé. Le procès de Charles Onana s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Paris. L'auteur franco-camerounais est jugé aux côtés de son éditeur pour contestation de l'existence d'un crime de génocide, précisément le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Il est poursuivi pour des propos tenus dans son livre « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise » paru en 2019. En 2020, la FIDH, la Ligue des droits de l'homme et l'organisation Survie avaient porté plainte. Après l'audition de Charles Onana hier, c'est au tour des témoins d'être entendus. Explication Florence Maurice.
Face au juge, Charles Onana s'est défendu de contester l'existence du crime de génocide. « Je ne nie pas du tout le génocide et ne le ferai jamais », a-t-il déclaré, dénonçant un procès d'intention. Pourtant, dans le livre mis en cause dans ce procès, l'auteur franco-camerounais place entre guillemets le terme de génocide. Il parle de dogme ou d'idéologie du génocide. Il écrit également qu'affirmer que le génocide des Tutsis de 94 au Rwanda a été planifié par le régime Hutu constituerait, je cite, « une thèse conspirationniste » et même l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle, fin de citation. L'existence de cette planification a pourtant été reconnue par plusieurs juridictions, aussi bien en France qu'à l'étranger. Pour sa défense, Charles Onana a cité à comparaître une vingtaine de témoins, dont plusieurs anciens militaires français et rwandais. Les parties civiles ont-elles sollicité le témoignage de juristes et d'historiens. À 60 ans, Charles Onana est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont plusieurs sont controversés. En 2020, sa participation à un colloque colloque sur les Grands Lacs organisé dans l'enceinte du Sénat français avait suscité un tollé.
Florence Maurice, j'ajoute que l'audition des témoins doit se poursuivre jeudi et vendredi matin. Au Mali, le procès en appel de l'économiste Étienne Fakaba Sissoko devait se tenir hier, lundi. Ancien conseiller à la présidence ou à la primature, devenu une voix critique des autorités de transition. Il avait été condamné en mai dernier à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, et a payé 3 millions de francs CFA de dommages et intérêts à l'État, notamment pour atteinte au crédit de l'État. En cause, un livre publié fin 2023, ouvrage dans lequel il dénonçait la propagande du gouvernement de transition. Mais hier, l'audience prévue n'a porté que sur sa demande de mise en liberté provisoire et pour le moment, Étienne Fakaba Sissoko reste détenu. David Bachet nous en dit plus.
Sa première déception, racontent les proches d'Étienne Fakaba Sissoko, est d'être reparti en prison. Mais sa déception la plus grande est de ne pas avoir été jugé sur le fond. Contre toute attente, seule sa demande de mise en liberté provisoire a été examinée. Son avocat a donc soulevé des arguments professionnels, l'économiste enseigne à la faculté et passe lui-même le concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, ou encore des arguments familiaux et sanitaires. Il est diabétique, père de famille et sa mère, âgée et diabétique elle-même, vit sous son toit. Maître Marouf Sacco a surtout rappelé qu'Étienne Fakaba Sissoko était détenu depuis plus de 6 mois de manière préventive, une durée qui dépasse selon lui le raisonnable, alors qu'il existe des mesures alternatives, libération sous contrôle judiciaire strict, assignation à résidence, remise du passeport. Sollicité par RFI, le procureur près la cour d'appel de Bamako n'a pas donné suite. Le délibéré sur la demande de mise en liberté provisoire est fixé à lundi prochain. Étienne Fakaba Sissoko attend surtout une date pour être jugé sur le fond. Depuis le début de la procédure, sa défense dénonce un procès politique d'intimidation. Amnesty International considère que la détention d'Étienne Fakaba Sissoko est arbitraire, qu'il doit être libéré et sa peine révoquée.
En précision de David Bachet. L'avenir de plus en plus incertain des sociétés minières étrangères au Burkina Faso. Dans une prise de parole sur la radio publique ce dimanche, le capitaine Ibrahim Traoré a assuré qu'il était en train de retirer des permis d'exploitation multinationale présente sur le sol burkinabé. Le pays, faut-il le rappeler, pointe au 4e rang des producteurs d'or sur le continent. Les précisions d'Alexis Bédu.
Les grands miniers internationaux sont dans le viseur de la junte, notamment le britannique Endeavour Mining, le canadien Orezone ou l'australien West African Resources. Dans le pays, il existe 13 grandes mines industrielles qui produisent plus de 50 tonnes d'or par an et le Burkina souhaite exploiter directement ces gisements aurifères. Une nationalisation du secteur à petits pas via notamment l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, qui a commencé avec sa première mine dans le sud-ouest à Midhebdo. Une annonce éminemment politique d'Ibrahim Traoré. Depuis son accession au pouvoir, la junte n'a cessé d'augmenter les redevances sur la production d'or. Conséquence immédiate en bourse, en début de semaine, les actions d'Endeavour Mining cotées à Londres ont chuté de plus de 6%. Contacté par RFI, Orezone n'a pas donné suite. Le minier West African Resources a lui prévenu ce mardi avoir reçu l'assurance de la junte que son permis ne serait pas retiré. Est-ce que la nouvelle mine d'or octroyée à la société russe Nordgold il y a 2 ans sera aussi visé? Dans son intervention, Ibrahim Traoré n'a pas précisé quel permis d'exploitation ni quand il serait suspendu.
Alexis Bédu. Fin à Cotonou ce mardi d'un forum animé par 400 délégués, tous acteurs de la filière coton. Forum organisé à l'occasion de la journée mondiale du coton instituée depuis 2014. Le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et la Côte d'Ivoire, le top 5 des pays producteurs africains, est fortement impliqué dans la création de cette journée. On les appelle le C4+. À Cotonou, ils étaient donc en première ligne pour défendre le coton africain, un C4+, mobilisé pour que le continent profite mieux de son or blanc. À Cotonou, Jean-Luc Aplougan.
Organisé pour la première fois en Afrique, le thème du forum, le coton pour le bien-être de tous, n'a pas été choisi par hasard. Il résume bien le combat des pays africains qui veulent tirer plus profit de cette matière première. Ils veulent augmenter la production et donc les revenus des agriculteurs. Ils souhaitent aussi gagner plus dans la commercialisation sur le marché mondial. Autre objectif, gagner le défi de la transformation sur place. Le forum de Cotonou a travaillé et peaufiné la stratégie nourrie par les contributions issues des ateliers, la pleine transformation du coton sur place en Afrique devient donc une urgence. L'ambition est de passer de 12 à 50% d'ici 10 ans. Les doléances des producteurs sont également intégrées dans la stratégie. Ils ont obtenu la promesse d'être associés désormais aux chaînes de décision. Pour montrer qu'il est déjà dans cette dynamique, le Bénin a fait visiter aux délégués la zone industrielle de Glodibé dédiée à la transformation locale du coton, des noix de cajou, de l'ananas, des noix de karité et du soja. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Alors où en est donc précisément la filière coton africaine aujourd'hui? Force et faiblesse du secteur sur le continent. On fait le point avec le négociant coton Armand Ezerzer au micro de Nicolas Sûr.
La production africaine se porte plutôt bien avec une production globale d'environ 1 million de tonnes malgré des rendements relativement bas.
Oui, c'est-à-dire que les rendements sont inférieurs à ceux qu'on observe chez les grands producteurs mondiaux. Pour quelles raisons principalement ?
La première raison, c'est que c'est une culture intégralement manuelle. Il y a une morcellisation des terres où une surface moyenne est d'à peu près 2 hectares par exploitation. Donc, ce qui fait qu'il y a peu de mécanisation, toutes les récoltes se font à la main et avec un rendement à l'hectare qui tourne autour de 850 kilos. Donc, c'est très très bas par rapport aux autres pays où on a des surfaces beaucoup plus importantes.
C'est-à-dire que les exploitations sont plus petites, elles sont plus artisanales. Est-ce aussi parce que les engrais sont moins utilisés ?
Depuis que la guerre en Ukraine a été déclarée, il y a des sanctions sur un certain nombre de dirigeants de producteurs d'engrais russes qui sont les plus grands producteurs, qui fait que le coût des engrais a été multiplié pendant un temps par 4. Et aujourd'hui, on n'est toujours pas revenu aux prix initiaux, c'est-à-dire que la tonne d'engrais coûte à peu près aujourd'hui 2 fois ce qu'elle coûtait avant la guerre en Ukraine.
Dans ces conditions, est-ce que le coton africain peut affronter la concurrence des grands producteurs mondiaux et notamment celle du nouveau géant de la production qui est le Brésil ? On dit qu'il inonde le marché depuis quelques années.
Aujourd'hui, l'hémisphère sud, puisque le Brésil était un hémisphère sud, produit plus de 3,5 millions de tonnes de coton par an. Et le vrai problème, c'est que les États-Unis en produisent à peu près autant et qu'aujourd'hui, tous ces très gros pays de production que sont d'abord le Brésil, les États-Unis et après l'Australie, à eux trois, ces pays exportent 7 millions de tonnes de coton par an. Donc la vraie problématique pour le coton africain, c'est de trouver un débouché face à ces géants. Aujourd'hui, ce qui permet au coton africain de se maintenir, c'est que c'est un coton récolté à la main, avec une fibre qui n'est pas surtravaillée, ce qui lui permet d'avoir des qualités techniques qui sont très appréciées de certains filateurs. Maintenant, le challenge va être de trouver de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés. Il y a maintenant au Bénin une usine qui s'est installée et qui fait une intégration complète, c'est-à-dire qu'on part du champ pour arriver à un fil, puis à un tissu, des vêtements qui vont être exportés un petit peu partout dans le monde, bénéficiant des accords de l'AGOA.
Voilà l'éclairage du négociant en coton Armand Ezerzer sur l'état de la filière. Il était l'invité d'Afrique Midi au micro de Nicolas Sûr. En football, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans le groupe G, le Tchad affrontera la Zambie vendredi puis mardi prochain. Deux matchs importants pour les Tchadiens, derniers de leur groupe. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, Ezekiel Ungar, 36 ans, aurait pu en profiter pour revenir en sélection. Mais le coach, Kevin Nicaise, a décidé de se passer de lui pour ces deux rencontres aux grand dam des supporters. Correspondance à N'Djamena, Nesta Yamgoto.
L'incompréhension règne parmi les supporters des Sao, qui espéraient voir leur meilleur buteur, Ngar Ezekiel, en pointe de l'attaque tchadienne face à la Zambie.
Tous les deux derniers matchs des Sao, aucun attaquant n'a pu mettre un but. Surtout qu'il a de belles performances en ce moment. Donc on aimerait le voir, peut-être qu'il pourra changer la tendance et nous marquer des buts. Mais malheureusement qu'il n'est pas là, donc je suis déçu.
Mais le sélectionneur Kevin Nicaise a préféré renouveler sa confiance à Marius Mwandil Madi, Amin Iver et Arun Chauna. Sur sa liste de 26 joueurs, le coach de Sao a aussi écarté Ninga Casimir, le dernier vétéran de la sélection nationale.
C'est vrai, il faut aussi essayer avec de nouvelles têtes. Mais je suis pas vraiment trop confiant parce que dans la plupart des confrontations qui ont eu lieu, ce ne sont pas les mêmes têtes qui ont marqué. Ouais, donc c'est comme on est dans un tâtonnement.
Sous le feu des critiques, Nikès n'a désormais plus droit à l'erreur. Un faux pas pourrait lui coûter son poste et entraîner une élimination de la CAN pour le Tchad. Nestayam Goto, N'Djamena, RFI.
Il est 19h45 à N'Djamena, 2h de plus à Antananarive. À Madagascar, 4 enfants sur 10 souffrent de malnutrition chronique, ce qui induit de fait une situation critique hein, par rapport au retard de croissance chez les moins de 5 ans. Cette privation répétée de nutrition pendant les 1000 premiers jours de leur vie affecte leur développement, les exposant à des conséquences cognitives et physiques irréversibles. Pour lutter contre cette malnutrition chronique, une entreprise sociale malgache développe depuis 2013 une farine infantile fortifiée, un produit préparé par des animatrices et vendu à un coût abordable aux plus vulnérables, en porte-à-porte dans les grandes villes du pays. Reportage, Sarah Teto.
Ce cri, c'est celui très reconnaissable de la vendeuse de la bouillie nutritive du même nom. En malgache, Kuba Ain signifie « farine de vie ». Il est 6h30, comme tous les matins, 6 jours par semaine, Tante Eli arpente son quartier, ses deux thermos pleins, portés à bout de bras. Au son de sa voix, des dizaines d'enfants accourent, gamelles et cuillères à la main.
Essuie-toi le nez d'abord, tu as trop de morve.
Contre 500 ariars, 9 centimes d'euros, la quadragénaire distribue une ration à chacun.
Ça me fait plaisir de nourrir des enfants. C'est un peu comme si c'était les miens. Mon travail consiste à préparer la bouillie en mélangeant tous les ingrédients. Cacahuètes, maïs, riz, soja, sucre, sels minéraux, calcium, vitamines et du fer. Il faut 45 minutes pour que tout cuise. Ensuite, je quitte ma maison à 6h15, dernier délai, pour pouvoir vendre ma nourriture aux travailleurs et aux enfants avant qu'ils ne partent à l'école.
Pieds nus, vêtus sommairement, Suzanne et son petit-fils s'insèrent dans la queue devant le thermos fumant de Tante Eli.
C'est bon, ça fait 9 ans qu'on en consomme, c'est devenu notre petit déjeuner. Ça évite de cuisiner, mais surtout, ça tient bien au ventre jusqu'à midi et ça évite d'avoir à donner un goûter.
Pour beaucoup de clients, il s'agit du seul repas nutritif de la journée. Il aura fallu attenter Lee et les autres vendeuses au moins 5 années de sensibilisation auprès des ménages des quartiers défavorisés pour arriver à changer les habitudes alimentaires et casser les idées reçues sur les prétendus bienfaits nutritifs de la soupe de riz. Manjay Siranjamirsou, le directeur général de Nutrizaz, la société qui distribue le Kuba Ain, estime que sa farine infantile fortifiée répond à une problématique de santé publique.
La population a été beaucoup habituée à des politiques d'assistanat. Or nous, on a pris le contre-pied. On a fait le pari de monétiser un service de santé publique. Si on explique aux gens le bienfait du produit, qu'ils sont responsables de leur destin, qu'ils sont capables de se prendre en main, d'investir en leurs enfants, ça pourrait marcher. Et ça fonctionne jusqu'à maintenant.
Si la situation nutritionnelle en milieu rural fait l'objet de beaucoup d'études sur l'île, celle en zone urbaine est beaucoup moins documentée. Pourtant, la malnutrition chronique frappe sévèrement les villes du centre du pays, à commencer par la capitale. En proposant massivement cette farine nutritive à un prix abordable, Nutrizaz ambitionne de réduire les retards de croissance des enfants dans les villes. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Antananarivo, il est actuellement 21h48. L'heure de retrouver Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, pour la page culture. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Zéphirin, bonsoir à tous.
Avant d'écouter votre sélection du jour, vous nous emmenez, comme d'habitude, à la découverte d'un espace culturel. Aujourd'hui, escale à Libreville, au Gabon, dans un bar, mais un bar pas comme les autres.
Oui, il s'agit de Entre nous, bar. C'est l'histoire de 3 amis d'université qui ont joint leurs forces pour créer un espace d'expression culturelle dédié à la jeunesse, pour les artistes et aussi pour la communauté. Aujourd'hui, Entre nous bar est devenu bien plus qu'un bar, n'est-ce pas Darlin Harper, l'un des fondateurs?
Ça, on le dit depuis que c'est plus qu'un bar, parce que Entre nos bars permet à tous les artistes de performer, les artistes traditionnels, les artistes tradis modernes, les artistes urbains, donc on reçoit vraiment tout le monde, la culture est mise en avant. On a reçu Amandine, on a reçu Créole, Angie Bling, Danzer, L'Oiseau Rare, Fetindos et Boloko, des mentors de la nouvelle génération. On mène aussi des actions sociales. On a fait un don pour les orphelins, pour des kits scolaires. On a fait du ramassage d'ordures dans les charbonnages. Donc c'est à notre niveau, notre façon aussi de participer justement au rayonnement de la société. À chaque fois qu'on est sollicité, on essaie d'intervenir tant que ça peut aider. Voilà, on a déjà fait des dons de sang du côté de la banque de dons, donc du CNTS, le Centre National de Transfusion Sanguine. Voilà, ça permet à des jeunes abonnés justement d'avoir quelque chose pour subvenir à leurs besoins.
Et si vous voulez en savoir plus sur les activités d'Entre Nous Bar Multitâche, rendez-vous sur les réseaux sociaux, notamment leur page Facebook, bien renseignée.
Et bien noté également de mon côté. Alors côté musique justement, vous ouvrez le bal avec le basketteur congolais Serge Ibaka en duo avec le rappeur ivoirien Didi B.
Oui, Serge Ibaka, ex-star de la NBA qui a débarqué à Abidjan pour travailler avec Didi B. Et justement, travailler est le titre de leur collaboration dont les revenus seront reversés à la Serge Ibaka Foundation pour venir en aide aux plus démunis.
Le trafic est très fluide, oh baby no stress, comment tu t'appelles? Si c'est pour le jet, j'ai plein de cadeaux, dis-moi ce que tu veux. Évité dans le jet, et faire la moula, c'est ma destinée. Bienvenue dans le mood de ma fousine style, ma fousine. On allume la télé dans ma fousine style, ma fousine. Bienvenue dans le mood de ma fousine style, ma fousine style. On allume la télé dans ma fousine style, en arrivant.
Voilà une chanson à deux vitesses hein, que nous offrent donc Serge Ibaka et Didi B. Vous vous dites Didi B. En tout cas, j'ai remarqué le changement de tempo Hervé. Allez, direction Mayotte pour découvrir le dernier morceau de Sourette.
Oui, l'enfant du pays, Sourette, un artiste engagé pour la protection de la nature et dont l'influence de la musique afro-pop du Nigeria est assumée. Son plus gros carton de l'année, c'était Chéri Coco. Et maintenant, c'est au tour de la chanson Roho Yango de conquérir son public. On écoute.
Jeli wako jua, amba no jire mamanyo na mufikiri mba unitahua. Mungwa ni venze zaidi, tena taka jua. Amba nyanzo za moka kweli roho nzi wade yongi asia. Nisona pia dalili. Wamina wawe mpaka vishitwani, urindolo za zamani. Vanira sika risiki, risilishe. Kula tari rote madari mshindi, moni haoka makini. Dunia nitaakhiru adewa we, tipara mzuri kasina.
Voilà donc pour cette petite escale à Mayotte, c'était le chanteur mahorais Sourette. Et maintenant Hervé, cap sur Lagos pour écouter deux pointures.
Asake et Wizkid. Ouais, Asake qui a invité Wizkid sur son morceau MMS, un acronyme qu'il définit par Mr. Money Sound. C'est à ce jour la chanson la plus personnelle d'Asake, car elle explique son parcours et raconte les défis qu'il a dû relever pour gravir les échelons de l'industrie musicale.
Le rythme, Hervé, est beaucoup plus lent, hein, il est beaucoup plus calme, ce qui est d'ailleurs assez surprenant de la part d'Asake. En tout cas, il est déjà l'heure de conclure, mon cher Hervé, et c'est en Ouganda que se termine notre voyage.
Oui, capitale Kampala, où le label Swangs Avenue a réuni des artistes Levickson, Azawi, Vinka, Elijah Kitaka, Zafaran et Winnie Nwagi sur le morceau God Ye Body, une célébration de la foi, de l'amitié et de l'amour omniprésent de Dieu, avec un message d'espoir et de gratitude qui résonne tout au long de la chanson. God Ye Body sera présent dans l'album Swangs All Star qui devrait sortir dans le courant du mois d'octobre. On écoute.
God is my body.
Eh bien, c'est à Kampala que s'achève cette balade musicale, un petit périple concocté par Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, une sélection à retrouver, bien sûr, sur le site RFI Musique. Merci beaucoup.
Merci Zéphirin, ce sera dans l'Afro Club et aussi sur les réseaux sociaux de la Radio du Monde. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mes deux frères, sœurs, Nanette et Guy Mandina.
Bon anniversaire à toutes les deux. Il est 20h et bientôt 55 minutes ici à Paris. Un petit rappel de quelques rendez-vous à retenir ce soir à 19h10, temps universel dans l'Accent d'Europe. On s'intéresse à la jeunesse grecque qui ne fait plus d'enfants. La population a diminué de 3% en 10 ans dans le pays. Les causes, les conséquences d'une décennie de crise économique, un fort pessimisme ambiant, mais aussi de profonds changements dans les modes de vie. Thanos et Katerina, déjà trentenaires, sont en couple depuis 10 ans. Ils attendent encore. Reportage à Athènes, Joël Bronner.
À l'avenir, nous aimerions avoir un enfant ensemble. Si nous n'en avons pas jusqu'à présent, c'est principalement pour des raisons économiques. Moi, je suis comptable dans une entreprise et je perçois un salaire de base. En ce moment, mon compagnon ne travaille pas. Nous vivons avec un salaire net d'environ 750 euros. Quand vous songez que le loyer s'élève à près de 400 euros et qu'il faut encore payer le supermarché, c'est compliqué.
Voilà, reportage de Joël Bronner à retrouver bien sûr sur le site RFI, rubrique podcast Accent d'Europe et sur nos antennes à partir de 19h10, temps universel. Et puis à 19h40, temps universel, au lendemain des commémorations des attaques du 7 octobre, le grand reportage nous conduit lui à Gaza, au cœur d'une guerre documentée heure par heure depuis un an par ceux qui la subissent, sur cette bande de terre de 40 km de long sur 6 à 12 km de large, où la presse étrangère est bannie par l'armée israélienne. 80% des Gazaouis sont des réfugiés, descendants de réfugiés. Ils sont originaires de Jaffa, d'Haïfa, de Beersheba, des villes autrefois arabes devenues israéliennes lors de la création de l'État hébreu. Parmi eux, ce jeune homme dont on écoute le témoignage.
Ta mère et sa famille ne partiront pas. Nous n'avons plus d'eau, plus d'électricité. Les frappes sont ininterrompues. Nos grands-parents ont été chassés de leur terre. Pas question de subir une nouvelle fois cette humiliation. Nous allons rester chez nous, dans le nord de Gaza, et mourir chez nous, conclut Tamer.
Voilà, Gaza, les Palestiniens, tous coupables aux yeux d'Israël. Un an de documents d'archives et un entretien avec Mostafa Barghouti, homme politique palestinien, dans ce grand reportage de Sami Boukhalifa, à écouter en intégralité sur RFI à partir de 19h40, temps universel. Et puis, plus léger, enfin, 20h10, temps universel, couleur tropicale, avec une émission consacrée aux nouveautés et découvertes. Mais en fin d'émission, la séquence Gold repasse des chansons sorties avant la fin des années 70. C'est le cas de cet incontournable tube de Kool & The Gang, Celebration. Kool & The Gang, que vous retrouverez ce soir à 20h10, temps universel dans Couleur Tropicale, qui consacrera aussi au groupe une émission spéciale ce jeudi 11 octobre. Ainsi s'achève cette première édition d'Afrique Soir. Merci de l'avoir suivi, mais restez à l'écoute. L'info continue sur Radio France Internationale avec à suivre un nouveau journal.
Priorité santé. Caroline Paré vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Demain...
Cicatrisation, eczéma, acné, psoriasis, nous parlons des différentes affections de la peau, diagnostic et traitement, et des conseils pour prendre soin de sa peau avec un dermatologue en direct pour répondre à toutes vos questions.
Priorité santé
avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Laurence Garcia attend vos témoignages sur le thème de demain.
On a tous en mémoire une maîtresse d'école ou un prof qui a marqué nos rêves de futurs adultes. Que reste-t-il des Pygmalions et de la transmission? À quoi sert le mentorat dans les parcours scolaires?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41. 8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI. Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.